Géopolitique.
We've learned again that democracy is precious.
Analyse.
Poste de combat.
Débat. Périscope, le podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine. Pierre de Villeneuve.
Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être fidèles à Périscope, le podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine. Aujourd'hui, une spécificité qui fait toute la différence de la marine française, l'atome, le nucléaire. Aujourd'hui, les fleurons de notre marine nationale, à savoir les sous-marins lanceurs d'engins, les sous-marins nucléaires d'attaque et le porte-avions sont à propulsion nucléaire. C'est cette force-là que nous allons examiner aujourd'hui avec nos invités, en retraçant la genèse, comment tout cela a commencé, qui a eu l'idée, comment elle s'est développée, jusqu'à devenir une signature, un label des forces marines et des forces françaises tout court. Celle qu'on appelle la dissuasion doit en effet beaucoup à l'atome. Nous allons prendre le temps de vous expliquer. Bonjour à Félix Torres.
Bonjour.
Vous êtes agrégé d'histoire, docteur en anthropologie, chercheur, co-auteur de ce livre publié au Cherche Midi et préfacé par le chef d'état-major de la marine, l'amiral Vandier, « Les atomes de la mer », qui nous sert d'ailleurs de support aujourd'hui à notre discussion. Bonjour à l'amiral Stanislas de la Motte.
Oui, bonjour.
Vous êtes l'inspecteur général des armées marines. Vous avez été très tôt breveté officier énergie atomicien et vous avez enchaîné des postes stratégiques dans la marine nationale. J'accueille aussi Loïc Rocard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le PDG de Technicatom. Technicatom conçoit, réalise et met en service les réacteurs nucléaires compacts. Ce sont 2000 personnes au service de la propulsion navale, principalement, et de l'énergie nucléaire en général, y compris pour le secteur civil. Henry Kissinger avait coutume de dire « un porte-avions, c'est 100 000 tonnes de diplomatie ». Une phrase à la fois politique, militaire, patriotique, que l'on emprunte volontiers pour la rapatrier d'ailleurs en France. Un porte-avions, au même titre qu'un sous-marin, ce sont des armes qui interviennent souvent dans la bouche et dans la plume des dirigeants, avant même qu'ils fassent feu, avant même qu'ils changent subitement de cap. Félix Torres, vous avez voulu, avec votre co-auteur Boris Dantzer-Kantoff, expliquer comment est née cette dissuasion à travers le nucléaire. Mais quel a été le déclencheur pour faire ce livre? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée?
J'avais réalisé depuis une vingtaine d'années une série d'ouvrages et de travaux pour EDF, en particulier sur les réacteurs à eau pressurisée et sur l'histoire du programme nucléaire français, qui s'est appelé l'énergie de la France. Et Loïc Rocard, à la tête de Technicatom, m'a demandé de dire il y a une deuxième filière nucléaire française, c'est la filière militaire, c'est la filière de la marine, et donc il faudrait faire un livre là-dessus. Et la surprise, c'est que ce livre, enfin, il n'y avait pas de travail de synthèse, et donc il a fallu avancer en terrain inconnu et puis produire un texte, j'espère, de référence.
De référence, passionnant, passionné d'ailleurs, on sent votre engouement à le faire, avec énormément de détails techniques, des graphiques, des données statistiques, tout ça est très intéressant, on va en parler bien sûr. D'abord Félix Torres, comment est-ce que tout a commencé justement sur l'atome?
Tout commence en mars 1939 quand Ross Gunn, tout commence outre-Atlantique, qui est le patron des recherches de la marine, ils sont à la recherche du sous-marin idéal ou de la propulsion idéale pour sous-marin.
Donc aux États-Unis.
Aux États-Unis, ouais. C'est une invention américaine. Ouais. La propulsion nucléaire, distinguons-la de la bombe atomique. Elle anticipe la bombe atomique, puisque la fameuse lettre d'Einstein à Roosevelt, qui dit qu'il faut faire la bombe atomique, elle est postérieure à peu près d'un an. Non, Ross Gunn assiste à une conférence de Fermi et de Bohr, qui sont les grands physiciens, qui disent qu'on peut utiliser l'énergie nucléaire. À l'époque, il n'y a pas de bombe, il n'y a pas de réacteur, il n'y a rien en 1939. Il y a les brevets Joliot, mais tout ça, et on est vraiment dans les limbes. Et là, il dit, c'est formidable, on pourrait appliquer cette énergie nouvelle au sous-marin, à la propulsion sous-marine. Et il lance un budget. Alors, ça s'arrête très vite parce que l'armée met la main dessus et dit, c'est le programme Manhattan. C'est nous. Hein. On fait d'abord la bombe, on gagne la guerre, on verra après. Mais dès le lendemain de la guerre, notamment l'amiral Nimitz, qui est à la tête de la marine, dit qu'il faut absolument gagner la bataille sous les mers en particulier, hein, et donc il faut reprendre ses recherches.
Mais là, sans être trop technique, et pour essayer de comprendre, comment est-ce que vous me parlez de la bombe atomique et vous me parlez de cette technologie qui pourrait équiper les sous-marins? Pardonnez-moi, je n'arrive pas à voir le lien. Techniquement, comment ça se passe?
Les bombes atomiques et nucléaires, les bombes A et H, c'est de la fission qui produit une énergie colossale. À partir de Los Alamos, d'Hiroshima, Nagasaki, on a une série d'essais dans les grands qui se dotent de l'arme nucléaire, dont la France à partir de 60-61. Mais la propulsion nucléaire, ce sont des réacteurs nucléaires. C'est-à-dire que ce sont les réacteurs équivalents au parc de... D'ailleurs, c'est contrôler une fission de façon qu'à ce qu'elle produise de l'électricité, de l'énergie. Donc, la propulsion nucléaire, elle se range plutôt des réacteurs de la propulsion d'énergie, d'électricité civile, plutôt que du côté bombe au sens strict du terme.
Oui, bien sûr. Et c'est là qu'il faut faire la différence. En France, c'est arrivé ensuite, assez vite. Comment est-ce qu'on a apprivoisé cette technologie ?
Le grand modèle, c'était le Nautilus, c'est-à-dire le premier sous-marin à propulsion nucléaire, réalisé aux États-Unis par un homme dont il faut citer le nom, qui est l'amiral Rickover, qui était le père de... Ça s'est fait très rapidement, la décision est prise vers 1947-1948, et dès 1954-1955, le Nautilus, qui est un sous-marin nucléaire d'attaque, gagne l'Atlantique avec un fameux message « Underwear Nuclear Power », c'est-à-dire sous la surface avec de la propulsion nucléaire. Et 5 ans après, les Américains mettent à la mer le George Washington, qui est un sous-marin d'attaque, mais qu'on a transformé pour abriter des fusées nucléaires, des missiles, ça lance missiles, et c'est l'ancêtre des marines stratégiques dans le monde. Un petit mot là-dessus, c'est-à-dire la France a voulu réaliser son Nautilus dans les années 50 avec la 4e République, c'est le Q244, mais la technologie n'était pas la bonne, c'était un réacteur à uranium naturel et refroidi à l'eau lourde. La France n'avait pas d'uranium enrichi à l'époque pour faire tourner la propulsion nucléaire avec la principale technologie qui sont les réacteurs à eau pressurisée, les mêmes réacteurs que ceux qu'on trouve dans les parcs civils, il fallait l'uranium enrichi. La France de la 4e puis de la 5e n'en avait pas à l'époque. Donc on a pris cette voie, donc elle s'est arrêtée très vite en 1956-1958, mais ça a été un échec que je qualifie de fertile, c'est-à-dire...
On apprend de ses erreurs, c'est ça ?
Oui, et puis le travail entre le CEA, qui maîtrise la technologie nucléaire et la marine qui va l'employer, il y avait un calage à faire qui va se faire assez facilement à partir de 1958-1959-1960, quand le général de Gaulle dit « nous faut une force de dissuasion » et quand la décision sera prise de dire de faire des sous-marins stratégiques lanceurs d'engins, les SNLE.
Loïc Rocard. Comme le dit Félix Torres, à partir de l'échec du Q244, tout se met en place qui rend possible l'existence de la sous-marinade nucléaire française. Et ce qui se met en place à l'époque, c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est pratiquement exactement en place aujourd'hui de la même manière. C'est-à-dire la création du berceau de la propulsion nucléaire à Cadarache, la mise en œuvre progressivement des réacteurs à eau pressurisée, qui ont existé pour la propulsion navale, mais aussi pour le civil, et aussi, ce qui est moins visible, qui est la manière pour la technostructure, les entreprises et l'administration et le politique de s'organiser pour faire en sorte que cette chaîne de la propulsion nucléaire et de la dissuasion soit toujours opérationnelle, et ça fait 60 ans que ça dure.
Amiral, sur cette période justement de la genèse de l'atome et du nucléaire pour les sous-marins, un petit mot ?
Non, comme l'a rappelé Loïc Rocard, très rapidement, la France et en particulier la 4e République qui a finalement engagé la France dans l'histoire de la dissuasion, puis évidemment après le général de Gaulle, a compris d'une part ce qu'apportait la dissuasion nucléaire pour le salut de la France, et comme l'a rappelé M. Torres, il y a une grande différence entre la bombe nucléaire et la propulsion nucléaire, mais les mêmes politiques ont compris à quel point la propulsion nucléaire était un élément essentiel, sur lequel je reviendrai sans doute un peu plus tard, de la crédibilité de la dissuasion nucléaire par l'autonomie, par la discussion, par toutes les qualités qu'elle apporte au SNLE. Donc la dissuasion en tant qu'outil politique et militaire, et la propulsion nucléaire au service, à l'appui de cette dissuasion.
On est quand même à l'époque, dans les années 50, en période de guerre froide. Est-ce que c'est un outil ? Est-ce que c'est une force politique ? Est-ce qu'on se dit, tiens, on a trouvé quelque chose qui peut servir ?
C'est à la fois un outil stratégique et tactique, c'est-à-dire, il faut bien distinguer deux types de sous-marins nucléaires. À propulsion nucléaire, les SNLE, c'est-à-dire qui lancent des missiles stratégiques, dont la portée va s'enrichir au fur et à mesure, et les sous-marins nucléaires d'attaque,
les SNA,
qui sont un peu des hunter killers, des chasseurs-tueurs, qui à la fois protègent les SNLE, attaquent leurs rivaux. Il y a eu, durant la guerre froide, qui va jusqu'aux années 80, une bataille sous les mers très très féroce entre soviétiques et américains, pour le contrôle des mers et la surface. Là, il faut dire une chose là-dessus, c'est-à-dire, la filière française, elle reprend le modèle américain, avec un décalage à peu près de 5 à 10 ans. Mm-hmm. Et il faudra, bon, le redoutable, qui est le premier SNLE français, est mis à la mer en 67, et il devient opérationnel sous Georges Pompidou au début des années 70. À côté de ça, il y a des sous-marins nucléaires d'attaque américains, soviétiques, britanniques.
Vous n'avez pas parlé des soviétiques, justement. Comment est-ce qu'ils mettent en marche, justement, toute cette technologie ?
Les soviétiques ont 5 à 7 ans, il y a eu des livres qui sont parus après la chute de l'URSS, ils ont 5 à 7 ans de retard.
D'accord.
Ils courent après, je dirais, fouettés par leurs instances oui. politiques. Oui. Ils prennent beaucoup de risques. Ils sont très inventifs, les soviétiques. Et là, ça se fait au détriment de la sécurité des équipages. L'isolation des radiations n'est pas bonne. Et c'est souvent les marins qui finalisent un sous-marin qui n'est pas entièrement opérationnel quand il est mis à la mer. Bon, ça a été un
choix. On apprend sur le tas, comme on dit. C'est-à-dire que les marins reportent après en disant, il manquerait ça,
oui, oui.
il faudrait peut-être améliorer ceci.
Ça explique que les soviétiques se tiraient de situations extraordinaires, de catastrophiques, ils sont sur le radeau, ils se débrouillent. En y ajoutant que les soviétiques étaient toujours à la recherche, comme ils étaient en retard, d'une supériorité par rapport aux sous-marins américains. Et donc, ils ont testé des technologies très innovantes, pas toutes opérationnelles.
Comme lesquelles ?
C'était notamment à sodium liquide,
Avec des matériaux très dangereux,
c'est ça ? Des matériaux très dangereux qui sont, quand ils sont à l'air libre. Les réacteurs à eau pressurisée qui forment l'essentiel des flottes sous-marines et de surface dans le monde, c'est des réacteurs très simples. Hein. Il y a un double circuit et c'est de l'eau sous pression. L'eau sous pression fait tourner des turbines. Vous voyez ? Et donc, ils n'ont jamais eu d'accident du côté occidental depuis qu'ils existent. Alors que les soviétiques ont tenté beaucoup d'expériences, souvent catastrophiques, et ils ont aussi mis les plus gros sous-marins, lanceurs d'engins qui n'ont jamais existé, ce qu'on appelle les Typhoons, qui ont été déclassés après la chute de l'URSS, qui étaient des monstres. Mais
envergure par rapport aux nôtres, j'allais dire.
Pas les chiffres en tête, mais enfin, ils étaient deux à trois fois supérieurs.
Les soviétiques sont ceux qui ont construit les plus gros sous-marins, et ils sont montés jusqu'à des ordinateurs 27 000, 28 000 tonnes. Qu'il faut comparer à nos SNLE actuels, qui, l'ordre de grandeur, on est 14 000 tonnes. Ouais. Et pour le suffrain, l'ordre de grandeur, on est dans 5 000 tonnes. Et le rubis étant le plus petit, on est dans, peut-être parce que c'est une prouesse technologique, un bâtiment qui faisait 2 400 tonnes. Voilà. Donc on est dans un ordre. Si on prend le plus petit, qui était le SNA français, la famille des rubis, dont vous savez que c'est en train d'être remplacé par la famille des suffrains, si on prend le plus petit au SNLE russe, on est dans un ordre de x10, x11.
Totalement. Excusez-moi, j'en reste bouche bée, en fait, face à ces chiffres. Loïc Rocard, vous vouliez rajouter quelque chose ? Et puis, surtout, j'allais vous interroger sur, puisque maintenant vous êtes le PDG de Technicatome, mais justement, cette entité Technicatome, quand est-ce qu'elle apparaît ? Quand est-ce qu'elle rentre dans le jeu, en fait ?
Alors, Technicatome apparaît en 1972, mais c'était un départ lancé, parce que les équipes de Technicatome, au départ, c'est l'ingénierie chevaux légers du CEA. Il faut savoir que toute l'aventure nucléaire française, c'est le commissariat à l'énergie atomique, créé en 1945 par l'ordonnance du général de Gaulle. Et dans les années 60, les ingénieurs qui sont en charge de faire les petits réacteurs civils, notamment les réacteurs d'essai, de recherche, et qui travaillent sur le prototype à terre qui préfigure la propulsion nucléaire, ces équipes-là deviendront, entre 1972 et 1974, Technicatome. Et donc le savoir-faire sera transféré d'une certaine manière avec les personnes. Et donc formellement, l'aventure Technicatome commence à peu près au même moment que la première patrouille du premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins français, le Redoutable, début 1972. Donc Technicatome, c'est juin 1972.
Donc en juin 1972, on est combien chez Technicatome ? On fait quoi ? À quelle cadence ?
Alors dans un premier temps, on est quelques centaines, un petit nombre de centaines, et on fait surtout de l'ingénierie pour le civil. Dans un premier temps, c'est l'équipe de ce qu'on appelait à l'époque les piles, donc c'est les petits réacteurs civils. Et progressivement, c'est la première filiale, on dirait spin-off aujourd'hui, très joliment, c'est la première filiale du CEA. Et finalement, donc une filiale qui a beaucoup prospéré. Et dès le départ, ça a fonctionné de telle sorte qu'on y a logé également la propulsion nucléaire, mm-hmm. qui très vite est devenue beaucoup plus importante en nombre, en intensité d'engagement.
C'est devenu la principale activité, peu à peu, c'est ça ?
C'est devenu très vite la principale activité. Le patron, donc un de mes grands prédécesseurs, le commandant Andrieux, qui était donc un commandant de sous-marin pendant la Seconde Guerre mondiale, est devenu, dès 1976, le patron de Technicatom. Et lui, son orientation était très clairement la propulsion nucléaire navale. Et on était en plein dans la conception de la chaufferie du réacteur du SNA Ruby, mm-hmm. dont parlait l'amiral à l'instant, et qui fait office véritablement de petite révolution dans le monde des sous-marins, puisque cette conception ouvre à la miniaturisation, donc au moindre coût, des possibilités de furtivité qui n'existaient pas à l'époque. Et c'est dans ce cadre-là que Technicatom finalement s'installe définitivement, j'espère, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, dans le paysage.
J'aime bien le « j'espère ». Alors justement, puisqu'on on arrive à la période actuelle, vous avez présenté les différentes phases de Technicatom. Et heureusement, j'allais dire, il y a beaucoup de confidentialité autour de Technicatom. C'est alors sans révéler quoi que ce soit, évidemment, dans ce podcast Periscope. Comment est-ce que ça fonctionne ? Quel est le fonctionnement aujourd'hui ? Est-ce que j'imagine que la propulsion nucléaire reste la principale activité, même si vous faites du civil. Comment est-ce que vous fonctionnez aujourd'hui ?
Alors, on fait bon an mal an 80% d'activité pour le nucléaire de défense et le reste pour le nucléaire civil. Donc c'est
80-20, d'accord.
80-20, c'est pas du tout négligeable la partie civile. Et comme je le disais, elle préexiste à l'autre, on l'a toujours faite. Et elle fait partie de notre équilibre et elle fait partie de notre modèle. Et ça continuera. 100% de nos salariés sont titulaires d'une habilitation de sécurité. Donc, ce qu'on connaissait avant sous le nom de confidentiel défense, secret défense. Voilà, donc tous nos salariés sont habilités secrets, ce qui évidemment en impose un peu dans le positionnement de chacun vis-à-vis des obligations de discrétion, de sérieux, mm-hmm. dans la manière, un, de faire son travail, et deux, de se garder d'en parler en dehors de l'entreprise.
Je fais une pause là-dessus. C'est extrêmement important, je pense, pour le grand public qui nous écoute. Est-ce que c'est un conditionnement, en fait, j'allais dire humain, où on se dit, bah voilà, j'ai un engagement, je ne dis rien, j'ai pas le droit d'en parler, etc. Voilà, c'est...
Alors, d'une part, chacun vit ça
à sa façon.
Je ne pense pas que ce soit que cela corresponde à un poids. C'est simplement une. Je me tourne vers l'amiral parce que il y a pas que chez nous que ce genre de choses existent. C'est des plis à prendre. C'est plutôt de l'ordre de l'hygiène générale que de l'ordre d'une inquiétude ou d'une grande attention particulière de chaque instant. Ce qui est vrai, c'est que la propulsion nucléaire française est complètement protégée. Rien n'en sort et d'une certaine manière, rien n'y rentre de l'extérieur. Nous n'avons pas à connaître de ce que font les Russes ou les Américains ou d'autres, les Chinois ou qui sais-je encore, dans le domaine. Et nous sommes à l'intérieur de notre bulle de savoir-faire. Et c'est à l'intérieur de celle-ci que nous perpétuons notre savoir-faire, que nous formons.
Donc il y a une forme de fierté aussi derrière. C'est-à-dire que c'est à la fois grisant aussi d'être... dans un process comme celui-là. Je parle de ça parce qu'aujourd'hui, on vit quand même à l'ère des smartphones, des réseaux sociaux. Enfin, tout est très facile. Alors, il peut y avoir des...
Je vous rassure sur ce point. Nos salariés sont tout à fait des gens parfaitement normaux, j'allais dire, comme vous et moi, mais beaucoup plus largement représentatifs de toute la société. Et donc là-dessus, ils vivent, ils ont les mêmes préoccupations, ils sont tous équipés de leur smartphone, ce qui n'empêche pas de faire le départ entre leur activité, ceux qui travaillent au service de l'ingénierie nucléaire, et le reste de leur vie.
Amiral.
Ce que je peux rajouter à ce sujet, c'est qu'il y a d'une part un cadre, un socle qui est commun à la propulsion nucléaire et à bien d'autres activités de défense qui nécessitent une sécurité, une protection des informations, et avec toujours trois, quatre étages assez naturels. Il y a la responsabilité individuelle, ce que vous mentionniez, c'est-à-dire que l'individu doit comprendre pourquoi il n'a pas à diffuser, à raconter ça. Il y a la culture, donc l'ensemble, l'individu n'est pas seul, il est porté par la société, par l'organisation, par l'équipage, et voyant que tout le monde effectivement a ce comportement, ça le conforte dans sa responsabilité. Et ensuite des règles, malgré tout des règles, avec des niveaux de confidentialité, avec nos services d'information sont protégés, etc. Et puis des contrôles. Et donc ce système, à quatre étages, entre l'individu, l'équipe ou l'équipage ou la société, les règles et les contrôles, et sont communs. Ce qui me semble presque faciliter la protection de l'information dans le cadre de la propulsion nucléaire, c'est d'une part, il y a une appropriation, une compréhension assez naturelle de la nécessité, effectivement, de ne pas le divulguer. On comprend très bien pourquoi il y a des choses qui se disent et qui ne se disent pas. Donc, il n'y a pas d'incompréhension de la part de la personne quant à ce qu'on lui demande, premièrement.
Il n'y a pas de tentation.
Il n'y a pas de tentation. Et le deuxième aspect, qu'on rencontre parfois dans la marine, la tentation pour des individus, en période opérationnelle, sur des événements, particulièrement visuels, d'avoir la tentation de montrer ce qu'il est en train de faire, etc. La propulsion nucléaire ne connaît moins, hormis des moments qui, justement, font l'objet de communications, tels que la mise à l'eau d'un sous-marin. On vient de voir les essais du numéro 2 à Cherbourg, etc. Mais sinon, il y a nettement moins cette tentation de faire de l'événementiel sur un travail qui est un travail du temps long.
Et alors, pardonnez-moi de poser une question candide, mais je parlais tout à l'heure, je faisais référence à la guerre froide. Dans une fiction, on verrait bien justement quelqu'un de chez vous se faire prendre en otage pour avoir les derniers secrets, etc. Bon, ça n'existe pas, c'est vraiment de la fiction. Alors, c'est pas un risque.
Un, ça n'existe pas. Deux, oui, c'est de la fiction. Trois, il y a quand même beaucoup de lignes de défense par rapport à ça. D'une part, dans l'histoire de Technicatome, nous n'avons jamais eu à déplorer de présomption de compromission interne. C'est-à-dire, il y a quand même des milliers de personnes qui se sont succédées. Nous n'avons jamais rien eu de cette nature. D'autre part, l'industrie et l'ingénierie nucléaire ne tiennent pas dans un seul cerveau. Donc, si vous récupérez une personne,
vous avez un bout du puzzle.
Vous avez fait un gros coup, mais qui vous mène nulle part, et vous risquez pas d'en faire un deuxième. Donc, ça marche pas.
Ouais, ça c'est très très important. L'aspect formation aussi des personnels de Technicatome et de toute cette filière-là, l'aspect RH. Il y a, j'imagine, des contraintes pour la formation, pour le suivi, pour le développement, pour le changement de carrière peut-être.
Alors vous disiez, vous posiez la question de savoir si c'était grisant. C'est pas un mot que j'emploie, mais ce qui est sûr, c'est que nous avons la chance de bénéficier d'une activité pour laquelle nos salariés se sentent engagés assez naturellement. On dit très couramment, on parle de sens. Voilà. Mmh. On n'a pas de mal à se dire que quand on
travaille
pour les activités pour lesquelles nous travaillons, on trouve du sens à son orientation professionnelle. En termes de formation, nous avons d'une part, nous avons deux tiers d'ingénieurs et un tiers de techniciens, si je résume de manière un petit peu grossière, et une dominante technique assez forte dans la majorité de nos salariés. Nous recrutons des personnes déjà formées, si possible bien formées par le système scolaire et supérieur français. Et après, l'essentiel de ce pourquoi ils seront utilisés ensuite vient de la formation interne. D'abord, ils sont formés tout au long de la carrière. Nous sommes bien sûr très au-delà des standards légaux de formation continue de nos salariés. Et puis, nous avons un mécanisme de compagnonnage des plus anciens vers les plus jeunes, qui est à la fois très opérant et complètement essentiel, puisque ce n'est pas de l'extérieur que nous récupérons nos savoir-faire. Pour autant, nous avons, grâce au nucléaire civil et grâce au fait que nous avons beaucoup de disciplines techniquement commune, enfin théorique, disons, dont la matière théorique est commune avec un acteur du civil bien connu qui est Framatome, et même d'une certaine façon EDF. Donc nous avons une capacité de récupérer des personnes de ces entreprises-là. Et inversement, nos salariés, d'abord, ont des grandes possibilités de varier les plaisirs pendant leur carrière, parce que nous avons plein de projets, civils comme militaires, à tous les stades d'avancement. Et puis, la filière nucléaire, depuis 50 ans, et c'est encore plus vrai ces temps-ci, attire. Et donc, il y a aussi des possibilités de sortir pour ceux qui le souhaitent et qui ont envie de changer d'employeur.
La Marine nationale récupère de temps en temps des gens de Technicatome pour d'autres emplois ou pas forcément?
Non. C'est plutôt dans l'autre sens.
nos marins, après avoir achevé leur carrière, ce qui peut être à 20, 25, 40 ans, et comme vous le disiez, se reconvertissent. Certains se reconvertissent dans le nucléaire et restent dans le domaine nucléaire dans le cadre de reconversion. Et dans ce cadre-là, quelques-uns vont à Technicatome, quelques-uns iront à EDF, à Framatome, etc.
Félix Torres, il y a des Technicatome dans les autres pays, les équivalents? Comment ça marche?
Oui, ce que je voulais dire, c'est que l'existence de Technicatome comme structure d'ingénierie et conception, ingénierie et réalisation depuis 1973, donc ça fait quand même une trentaine d'années aujourd'hui, ça a permis ça a permis d'accumuler un savoir-faire et de développer plusieurs générations. C'est-à-dire, à partir de... Il y a une date qu'il faut quand même rappeler ici, c'est 64 à Cadarache, qui est dans les Bouches-du-Rhône, à côté de la Durance, et les équipes de Jacques Chevalier ont fait diverger le premier prototype à terre, le PAT, qui est le premier, qui est le père de tous les réacteurs de cette filière. Et à partir de là, les équipes de Technicatome et autour de la marine ont cessé d'enrichir. Et donc, il y a eu plusieurs générations. L'une dont il faudrait citer le nom, c'est la CAP, la chaufferie à avancée prototype, qui est à partir du premier réacteur. Technicatome met au point une chaufferie, les marins appellent ça non pas des réacteurs, mais des chaufferies, intégrées et compactes, c'est-à-dire avec les générateurs de vapeur au-dessus. C'est-à-dire, ça permet, c'est une innovation technique qui est un peu à la source d'autres innovations. On a parlé des SNA, il y a quand même la génération du Charles de Gaulle, le premier porte-avions nucléaire français, dont il faudrait dire qu'on est les seuls avec les États-Unis à en posséder. Les Soviétiques puis les Russes n'ont jamais fait le choix de sous-marins nucléaires. La Chine va s'en doter, mais pas pour l'instant. Et aujourd'hui, on arrive sur la troisième génération des SNLE, on arrive sur le nouveau porte-avions nucléaire, et on arrive sur une nouvelle génération de sous-marins nucléaires d'attaque avec les Barracuda Suffren. Donc quelque part, et peut-être contrairement à la filière civile électrique, EDF, l'existence d'une structure pérenne dans le temps, c'est capital pour préserver ce que vous pourriez dire les secrets nucléaires, pour préserver un savoir-faire, une capacité d'innovation, une capacité de perfectionnement.
Amiral?
Oui, non seulement j'abonde complètement, mais c'est l'un des points que je souhaiterais souligner, c'est le mot cohérence dans toute notre filière de la propulsion nucléaire. Il y a une énorme cohérence. On a besoin de la propulsion nucléaire pour des enjeux de souveraineté, la dissuasion, nos prochains principaux outils stratégiques, porte-avions, SNA, etc. Ils doivent s'inscrire dans une logique industrielle, technologique, scientifique, qu'a décrit Loïc Rocard. Ils doivent s'inscrire dans une contrainte budgétaire, malgré tout. Le nucléaire coûte cher, mais il ne doit pas coûter plus ce qu'on est capable d'y mettre. Et donc, il y a des très forts enjeux derrière. Et ces enjeux, la France a été capable de les relever depuis plus de 50 ans aujourd'hui, par une très grande cohérence, qui est à la fois une cohérence de besoins capacitaires, besoin de SNLE, début des années 70, le redoutable en 72, besoin de sous-marins nucléaires d'attaque, le Ruby qui arrive à Toulon en 83, besoin du porte-avions qui commence les 198, qui est admis au service actif en 2000, et puis effectivement les nouvelles générations qui ont été mentionnées. Et cette logique, ce calendrier dans le temps, je ne sais pas ce qu'on veut dire, cet écoulement dans le temps des programmes militaires appuyés sur la PN, a eu son miroir, a son écho chez les industriels, dans le tissu industriel, qui permet le maintien des compétences, le maintien de l'expertise, et qui permet aujourd'hui d'avoir des outils non seulement totalement performants, sûrs, et de poursuivre l'histoire, comme ça l'a été dit.
Oui, vous avez parlé du caractère incrémental de la propulsion nucléaire.
En fait, le caractère incrémental est d'abord dans les capacités. Prenons un exemple qui est très parlant, celui des sous-marins nucléaires d'attaque. Donc qui interviennent, comme je l'ai dit, construits dans les années 70, hein, on appelait ça le projet Provence 72 pendant un temps, et avec l'arrivée donc, du Ruby à Toulon en 83. On est aux 40 ans de vie de ces bateaux, qui atteignent pas tout à fait 40 ans, qui atteignent 38, 39 ans, sans rentrer dans les détails. Mais donc, il y a 40 ans, cette histoire. Pourquoi les Sena étaient étaient les plus petits sous-marins nucléaires d'attaque du monde, et donc pourquoi ça a renvoyé finalement l'enjeu de militarisation sur Technicatome, c'est qu'on part en fait de nos sous-marins classiques. On part de l'Agosta, on part d'un sous-marin que l'on sait faire, et on dit, bah, tiens, ce sous-marin est réussi, ce sous-marin a une bonne forme, ce sous-marin est opérationnel, on va le nucléariser. Donc en fait, on part d'un design de sous-marin que l'on maîtrise, dans lequel on met une chaufferie, et du coup avec une énorme contrainte que l'on reporte sur la filière scientifique, technique, industrielle, de réussir à mettre la chaufferie qui ira dans ce sous-marin. Et ça, c'est une première étape qui a parfaitement réussi, alors qu'elle représentait quand même un enjeu très élevé pour l'industriel, qui a permis à la marine, du coup, d'acclimater complètement, de mettre en œuvre pendant 40 ans, de façon très, très réussie, ce type de SNA. Et maintenant, on passe sur le Suffren, qui, lui, avec l'expertise que l'on a, avec les exigences que l'on a comprises dans ces 40 ans d'exploitation en termes d'autonomie, en termes de discrétion, etc., conduisent au Suffren, où on a à peu près doublé le volume. On parle, d'un SNA type Ruby qui est de l'ordre de grandeur de 2400 tonnes, et on passe à 4800, 5000 tonnes, mais toujours avec ce principe de chaufferie intégrée.
Loïc Rocard, vous vouliez rajouter quelque chose là-dessus ?
Ce que je voudrais rajouter, c'est qu'on a eu la chance à Technicatome, dans un premier temps, d'avoir des grands anciens très forts qui ont su faire dans les années 70 cette innovation qui a posé le décor et qui a installé un paysage qui est encore le paysage actuel, parce qu'on fait aujourd'hui des chaufferies qui sont bien plus puissantes, bien plus ergonomiques, silencieuses, etc., tout ce que vous voulez, qu'à l'époque, mais fondamentalement le concept est resté le même. Et on a bénéficié du fait que nos programmes se sont enchaînés de manière régulière, l'un après l'autre, pas plus qu'il n'en fallait, et finalement sans vraiment d'à-coup. Mmh. Cette comparaison nous est favorable par rapport au nucléaire civil, qui lui est parti à la même époque, avec à peu près la même technologie de réacteur, même si ce n'était pas du tout les mêmes formats. C'était des réacteurs beaucoup plus gros. Mais ils en ont construit une soixantaine en 20 ans. Technicatome en a construit une vingtaine en 50 ans. Donc on voit la différence de ratio. Si bien qu'il n'y a pas eu d'autre issue pour le nucléaire électrogène civil français, mm-hmm, que de s'arrêter une fois que tout ce parc a été mis en service, finalement un peu au-delà de ce qu'était le besoin réel. Et quand on s'arrête dans une industrie ou dans une ingénierie comme le nucléaire, on se met au devant de sérieux problèmes. Nous avons eu la chance d'y aller, Technicatome avec le CEA, pas à pas, de ne jamais s'arrêter et finalement de continuer. Il n'est pas du tout anecdotique de savoir que nous avons mis en service 3 réacteurs, 9 dans les 4 dernières années. Mmh. Le dernier réacteur civil qui a été mis en service, c'était à la fin des années 90, hein, donc il y a bientôt 25 ans.
Oui, pour faire une mini-conclusion sur cet aspect-là, vraiment très précis, du sous-marin nucléaire, du porte-avions nucléaire, on en a parlé tout à l'heure avec vous, l'amiral, par rapport aux autres pays. C'est quoi le caractère intrinsèque ? Parce qu'on dit, on a un sous-marin nucléaire, on a un porte-avions nucléaire, c'est mieux. En quoi c'est mieux, de manière générale ? Eh oui !
Je vous l'indiquais, il y a des motifs qui sont bien connus. C'est mieux, tout le monde va penser autonomie. Il y en a plus que ça. Et donc, en fait, je vais repartir de trois termes simples qui sont proches de la physique. L'énergie, la puissance et l'exigence de sécurité. Et c'est le développement de ces trois principes, énergie, puissance, exigence de sécurité, qui vont amener toutes les qualités de la propulsion nucléaire. Bon, l'énergie, qui est le plus évident, le plus connu, puisque le nucléaire est ce qui permet de mettre dans le plus petit volume, la plus petite masse, la plus grande énergie, et donc qui donne une autonomie évidemment très importante. On sait que dans le cadre de la propulsion nucléaire française, on a fait le choix d'un certain taux d'enrichissement qui fait qu'on change nos cœurs tous les 8 ans, 8 ans et demi, 10 ans, mettons 10 ans pour simplifier, une petite dizaine d'années.
Quand vous dites enrichissement, c'est...
Enrichissement, c'est le taux d'uranium-235 à l'intérieur du cœur, puisque vous savez que c'est l'uranium-235 qui fissionne, contrairement à l'uranium-238 qui ne fissionne pas qui ne fissionne pas. Et donc, dans la nature, vous êtes à moins de 1%, vous êtes à 0,7% du uranium 235 dans le 238. Hormis l'exemple qui a été rappelé des réacteurs à uranium naturel, mais pour lequel, du coup, il faut un modérateur caloporteur différent. Tous les REP sont sur le principe d'un enrichissement, mais l'enrichissement va être de quelques pourcents dans les centrales d'EDF, un enrichissement qui doit être entre 3, 4, 4,5, 5%. Loïc a peut-être des chiffres plus précis, mais c'est les ordres de grandeur. Dans la propulsion nucléaire française, je ne donnerai pas de chiffres, mais on est dans cette classe, c'est-à-dire qu'on est dans des enrichissements qu'on va appeler faibles, inférieurs à 10%, et vous pouvez faire avoir des enrichissements beaucoup plus élevés, et ce qui vous donne beaucoup plus d'autonomie. Donc d'autres pays ont fait le choix de cœur très fortement enrichi. Quel que soit le principe, dans tous les cas, vous avez quelques années devant vous, donc il y a ce que j'appellerais une autonomie stratégique. Mmh. Et donc c'est ce qui permet de faire des patrouilles de SNLE. Vous savez qu'en France, on fait des patrouilles de 2 mois, 2 mois et demi, on est 70, 75 jours, mais on pourrait faire 3 mois, on pourrait faire 120 mois. La fatigue, ce n'est pas l'uranium qui est fatigué, c'est l'humain.
Ouais.
Donc, on se cale là-dessus. Et puis, l'autonomie en vivre, etc., je ne développe pas, mais donc, ce qu'on appelle l'autonomie
stratégique. Premier point, l'énergie.
Ouais. L'énergie a un deuxième intérêt, c'est ce que j'appellerais l'autonomie tactique et donc la discrétion, puisque vous n'avez pas besoin de recharger des batteries, puisque vous n'avez pas besoin de faire fonctionner un diesel pour recharger des batteries, vous n'avez pas besoin de revenir en gros tous les jours. C'est ce qu'il faut retenir pour un sous-marin diesel, un sous-marin classique. Vous revenez tous les jours à l'immersion périscopique pour avoir de l'air, pour faire fonctionner un diesel, pour recharger des batteries, pour repartir sur 24 heures d'autonomie. Je résume beaucoup, mais les ordres de grandeur sont là.
On est là pour comprendre.
Et donc, vous avez une autonomie tactique qui est de la discrétion. Parce que le plus gros intérêt, c'est que vous n'avez pas à changer d'immersion. Vous savez qu'en mer, il y a des immersions discrètes, indiscrètes, ça dépend de la température. Vous n'avez pas à revenir à la surface, à l'immersion périscopique. Vous n'avez pas à faire fonctionner le diesel, etc. Donc, l'autonomie tactique, c'est la discrétion, en simplifiant beaucoup. Deuxième critère, c'est la puissance. Un réacteur nucléaire, un réacteur de propulsion nucléaire, c'est extrêmement réactif au niveau du réacteur. Et ça, peut-être qu'on le sait moins. L'aspect neutronique, tout en étant parfaitement contrôlé, a des gradients de puissance qui sont très intéressants. Après, le réacteur s'inscrit dans un ensemble de propulsion. Il y a le réacteur, produit de la vapeur va dans des turbines. Les turbines entraînent soit des réducteurs, soit des générateurs électriques, selon le cas. Donc il y a tout ce système qui est à prendre en compte, et c'est souvent la turbine, avec ses temps de montée en allure, qui peut caler les gradients de montée en puissance. Mais un réacteur est quelque chose de très dynamique, et donc ce qui est très intéressant pour une montée en allure, une réduction d'allure, etc. Donc ça, c'est un deuxième vrai intérêt. Et puis, le troisième, c'est la face positive d'une face négative, je peux dire ça. L'exigence de sécurité nucléaire, on ne peut pas avoir d'accident. On ne peut pas avoir d'accident parce qu'il y a une question de sécurité des personnes et de l'équipage, il y a une question de sécurité éventuellement de la population, etc. Donc, les réacteurs doivent être sûrs et fiables. Et donc, ça suppose des contrôles, ça suppose de la maintenance, etc. Mais dès lors que vous avez parfaitement assumé cette exigence, et c'est évidemment le cas en France, cette exigence vous entraîne à des contrôles et une logique de maintien en service qui vous donne une très grande fiabilité. Et donc, c'est un vrai intérêt derrière. Nos bâtiments sont extrêmement fiables. Il y a eu extrêmement peu de retours à quai pour des problèmes d'indisponibilité, qui ne seront jamais d'ailleurs sur le cœur lui-même et qui peuvent être une pompe ou une chose. Je ne dis pas que ça n'est pas arrivé, mais avec un taux extrêmement faible, un ratio extrêmement faible. Et donc ça, c'est également une très grande qualité. Quand vous partez en mer, vous savez que vous allez faire votre mission.
Félix Torres, pour abonder dans ce sens.
Je crois que oui, la propulsion nucléaire, elle a beaucoup d'avantages, comme l'a expliqué l'amiral. Petite incise, il n'y a pas de propulsion nucléaire civile hors les brise-glaces soviétiques puis russes, parce que ça posait des problèmes de sécurité, de parcours en mer, c'est-à-dire que ça n'a pas décollé, entre guillemets, dans les années 70. Donc la propulsion nucléaire, de son côté un peu méconnu, est restée l'apanage des sous-marins et des porte-avions. Je disais tout à l'heure, deux pays ont des porte-avions nucléaires. Les Américains s'y sont mis beaucoup plus tardivement qu'on croyait, contrairement aux sous-marins. Il faut attendre la classe limite, hein, les sous-marins, les porte-avions qui dominent aujourd'hui les océans pour les États-Unis, à partir des années 70, pour qu'on ait une flotte de porte-avions nucléaires. Seule la France a suivi l'exemple américain. Après, aujourd'hui, et je bascule un peu vers la géopolitique, aujourd'hui, les océans sont peuplés de nouvelles grandes puissances. L'Inde, qui a à la fois des sous-marins nucléaires stratégiques et des sous-marins nucléaires d'attaque. La Chine, qui va en avoir. Peut-être d'autres, peut-être le Brésil, à côté de la triade ou du quatuor États-Unis, Grande-Bretagne, France, Russie. Donc, je dirais, la propulsion nucléaire, au-delà de... elle fait tourner des sous-marins qui servent à propulser, à envoyer des missiles stratégiques. Elle devient, comme au temps de la guerre froide, elle redevient, comme au temps de la guerre froide, un outil de bataille, un outil de guerre, un outil de dissuasion sous la mer.
Là-dessus, effectivement, c'est très difficile de parler du futur. C'est-à-dire qu'on, j'imagine que dans votre propos, vous voulez dire qu'on s'arme vers... Il y a d'autres pays qui suivent notre exemple, mais en même temps, on reste effectivement très performant dans cette technologie pour...
Justement, pour la classe Barracuda Souffren, sa portée et son équipement lui permet de jouer dans la cour des grands dans l'Indo-Pacifique, hein, dont on parle beaucoup à l'heure actuelle, c'est-à-dire dans l'océan Indien et l'océan Pacifique, parce que, comme disait l'amiral de la Motte, l'une des grandes forces du nucléaire, c'est l'autonomie. Un sous-marin nucléaire peut aller très très loin. C'est une de ses qualités. Il peut aller dans le Pacifique, par exemple. Vous voyez. Donc, ça ouvre des champs d'intervention qu'on n'envisageait pas il y a 30-40 ans.
Amiral de la Motte.
La propulsion nucléaire permet une grande autonomie stratégique, on l'a dit, permet d'aller loin. Mais donc, ça suppose qu'elle permet d'aller loin. Est-ce que l'on veut aller loin? Et donc, c'est là que se fera le partage entre... Il y a de nombreux pays qui, s'ils le souhaitaient, seraient capables de développer la propulsion nucléaire. Il y a bien d'autres pays qui ont les capacités industrielles et technologies françaises et qui le pourraient. Malgré tout, ça reste un vrai engagement budgétaire, ça reste surtout un vrai engagement politique. C'est un signal politique qui est envoyé. Et donc, c'est ce qui fera la part entre les pays qui ne se saisiront pas de cet outil, qui n'ont pas d'impropulsion nucléaire, et ceux, effectivement, comme l'a rappelé M. Félix Torres, qui s'y lanceront. Au-delà de l'aspect technologique capacitaire, ce sera un signal politique qui sera envoyé, qui seront de la part de ces pays qui diront « je souhaite avoir une emprise stratégique, une empreinte stratégique et envoyer mes bateaux loin ». Et donc c'est ce sera un vrai marquant de ce point de vue-là.
Loïc Rocard.
Par contre, on peut parler de ce qui nous occupe pour le futur, parce que nous sommes en train de livrer les réacteurs de la classe Barracuda. Et nous travaillons aujourd'hui sur les SNLE de troisième génération qui... dérive assez fortement de l'existant. En revanche, les chaufferies du futur porte-avions sont une classe relativement différente parce que le bateau sera plus grand, plus lourd, et donc il appellera à la fois plus d'énergie, comme disait l'amiral, et également de puissance. Donc on aura des chaufferies qui sont sensiblement plus grosses, plus armées, devrais-je dire, et donc ça c'est un beau et vrai challenge pour nous et qui nous conduira à renouveler notre savoir-faire comme ça avait été le cas dans les années 80 à l'époque où ont été conçus les réacteurs de propulsion de la classe triomphant des SNLE et du porte-avions qui était la même chaufferie nucléaire très légèrement adaptée entre les deux programmes. Donc on a une grande visibilité pour ce qui est des projets à venir si on pense que ce navire, le porte-avions de nouvelle génération, prendra la mer dans la deuxième partie de la décennie 2030 pour probablement au moins une bonne quarantaine d'années. Donc on voit qu'on est à la fin du siècle d'ores et déjà, et ça fait plusieurs années qu'on y travaille.
Est-ce que puisqu'on parlait de la Chine et de l'Inde, est-ce que ces pays-là qui sont des puissances en devenir, puisqu'elles construisent un arsenal qui n'existait pas jusqu'auparavant, en tout cas pas de la même façon? Est-ce qu'elles sont demandeuses de formation? Est-ce que Technicatome serait possiblement un formateur pour ces pays-là sur certains sujets?
Je vois l'amiral de la Motte qui sourit. Alors, je vous arrête net. Nous n'avons aucune espèce de contact d'aucune sorte avec les personnes des nationalités dont vous parlez.
L'Inde, amiral, est-ce que l'Inde est considérée comme un partenaire de la France? Pas forcément.
Bien sûr, mais sauf que quand vous dites partenaire,
il y a des limites.
Il faut rajouter un terme derrière. Partenaire politique, certainement. Partenaire opérationnel. On fait énormément d'exercices avec les Indiens. On fait même presque toute la gamme des exercices qu'on peut faire dans le domaine maritime. On fait des exercices entre forces aéronavales. On fait des exercices entre sous-marins. et en particulier avec les Scorpion qu'ils ont acquis auprès de Naval Group récemment, on fait des exercices au niveau de la guerre des mines, on fait des exercices au niveau des forces spéciales, des commandos. Donc, donc oui, c'est un vrai partenaire opérationnel, c'est un vrai partenaire stratégique dans l'océan Indien, sur lequel il a une place évidemment majeure, ce qui n'est discuté par personne. Après, quant à savoir si ce partenariat-là doit conduire à un partenariat d'armes nucléaires, c'est une question qui est totalement politique.
Ouais.
Est-ce qu'on veut envoyer ce signal-là ou pas ? D'abord, est-ce que les Indiens le demandent ? Est-ce que la France répondrait ? Et donc là, on est dans un sujet qui n'est pas...
Qui nous appartient
de
pas.
De l'ordre opérationnel dans lequel on est et qui est
exactement.
Très concret aujourd'hui.
Félix Torres.
Non, on voit bien dans le monde actuel et l'opération AUKUS, là, qui réunit l'Australie, la Grande-Bretagne et les États-Unis pour... c'est un accord stratégique qui a un volet, une composante sous-marine avec la fourniture de sous-marins nucléaires à l'Australie par les États-Unis en particulier. Je crois que ça pose la question de la mutualisation ou du partage, entre guillemets, de la propulsion nucléaire. Pas pour les sous-marins stratégiques, qui sont un petit peu là. C'est la dissuasion, c'est l'assurance-vie de la nation. Bon, ça ne se partage pas par définition.
C'est une jolie formule.
Oui,
l'assurance-vie de la nation.
C'était la volonté du général de Gaulle. La France, bon, elle a ses sous-marins nucléaires et stratégiques. Quant aux sous-marins nucléaires d'attaque, moi, c'est ma position, je pense qu'ils deviennent à la fois des outils tactiques, mais aussi stratégiques, comme l'a dit l'amiral, de dissuasion. C'est un signal politique. Nous sommes capables d'envoyer un SNA dans tel océan, dans tel, et aussi la Méditerranée. Hein. Nous sommes capables de le faire. Savoir que les sous-marins nucléaires d'attaque ont intervenu dans la guerre des Malouines, avec succès, contre l'Argentine, de la part de la Grande-Bretagne. Ils sont intervenus dans la guerre en Yougoslavie, aux bouches de Kotor, en interdisant à la marine serbe de sortir. Donc, ils ont une fonction de plus en plus forte. Et je dirais, dans ces cas-là, pourquoi ne pas envisager, avec bien sûr toutes les précautions d'usage, de le mutualiser avec des pays partenaires. Ça peut être des pays européens, comme l'Italie, ça peut être des pays ailleurs, parce que le montage AUKUS, l'accord stratégique AUKUS, a montré que la propulsion nucléaire, c'était je dirais, c'est la cerise sur le gâteau dans un accord stratégique. Voilà.
En guise de conclusion, amiral de la Motte, cette propulsion nucléaire qui n'a pas cessé d'évoluer et de s'optimiser, comment est-ce que, dans un monde idéal, à la fin du siècle, vous la voyez, est-ce qu'il y a encore des améliorations à faire ?
D'abord, comme l'a rappelé Loïc Rocard, on la voit bien parce que l'intérêt ou l'une des caractéristiques, en tout cas, du nucléaire, c'est de nous obliger à nous projeter. Ce qui veut dire que je pourrais vous répondre, comme on le fait souvent dans une émission, écoutez, j'ai pas une boule de cristal, etc. Là, il se trouve que dans le nucléaire, on a une boule de cristal. Cette boule de cristal, c'est les deux réacteurs, que qu'on soit Technicatom et puis toutes les sociétés qui sont à l'appui, qui sont sous-traitants ou autres de Technicatom. Les deux réacteurs SNLE 3G, qui sera mis en service au milieu des années 30 et qui va durer jusqu'au moins
2030, hein.
2030, pardon. Et qui va durer effectivement une quarantaine d'années. Même chose pour le portable, une quarantaine d'années. Et donc, en réalité, le nucléaire de la fin du siècle, on le connaît. Il est dessiné.
Il va être efficace.
Il va être détaillé, puis il a commencé à être réalisé. Et donc, il est connu et il est commis. Il repose sur deux choses qui sont essentielles. Le retour d'expérience, 50 ans pour les SNLE. 40 ans pour les SNA, 20 ans, plus de 20 ans pour le porte-avions. Et donc on a des dizaines, ce qu'on appelle des dizaines d'années chaufferie, des dizaines d'années des réacteurs. Et donc on est très confiant sur l'écosystème qui le fait et sur nos marins à les conduire. Et puis ça, c'est la première jambe, le retour d'expérience qui est très bon et qui permet effectivement de se projeter. Et puis la deuxième jambe, c'est le maintien des compétences qu'on a évoquées dans toute la chaîne industrielle et en premier lieu chez Technicatom et qui permettent d'être très confiant sur le fait qu'on y arrivera. Donc ce nucléaire de fin de siècle, on en connaît tout l'intérêt, étant donné les outils, les plateformes sur lesquelles on le met, et on en connaît la fiabilité, parce qu'on l'a expérimenté.
Merci beaucoup à vous trois, merci amiral Stanislas de la Motte, merci à vous monsieur Loïc Rocard, et merci à vous Félix Torres. Il faut absolument lire Les Atomes de la Mer, c'est paru au Cherche Midi. Nous on se revoit très très bientôt avec tout l'équipage de Périscope. À bientôt.
Vous venez d'écouter Périscope, un podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine, présenté par Pierre de Villeneuve. Ce podcast et tous les podcasts du CESM sont disponibles dès maintenant sur vos plateformes d'écoute habituelles et sur cesm.marine.defense.gouv.fr.